Sous les doigts d'Horowitz. Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado.
Will you stop, please?
Oh, dear.
Bonjour à tous. Deuxième épisode de notre saga Vladimir Horowitz. Aujourd'hui, nous allons tourner les pages de la grande histoire révolutionnaire dans l'histoire intime du jeune musicien. La semaine dernière, nous avons quitté le jeune Volodia, accompagné de sa mère, dans le hall d'un hôtel à Kiev en 1916. Ils étaient venus voir le grand Rachmaninov. Vladimir aurait dû jouer devant le maestro, sauf que ce dernier s'était défilé. Il avait repris le train une heure plus tôt pour ne pas avoir à affronter un de ses enfants dits prodiges et surtout le regard implorant de sa mère. L'année suivante, en 1917 donc, Rachmaninov écrit à son cousin « Il me reste environ 30 000 roubles, ce qui n'est pas rien. Mais je crains un nouvel effondrement. Tout ce qui m'entoure me perturbe à tel point que je suis incapable de travailler. Tout le monde me conseille de quitter temporairement la Russie. » Le mois d'octobre sanglant de 1917 lui fait prendre conscience que son entourage aristocratique ne fera pas long feu. Il fuit par la Suède avec ses filles et sa femme, n'emportant que quelques partitions inachevées. L'adolescent Vladimir n'entend qu'un fracas lointain des tumultes de l'époque, ouaté par un cocon musical et familial. Il faut dire que Kiev est dans un premier temps épargné par la révolution russe. Pour mettre fin à la guerre, la République bolchevique signe le traité de Brest-Litovsk. Une clause permet à l'Ukraine de gagner son indépendance et à Kiev d'en être la capitale. Du coup, la ville accueille nombre d'intellectuels qui fuient famine et violence en Russie. Parmi eux, un nouveau directeur du conservatoire, le compositeur Reinhold Glier, et des professeurs dont le célèbre et séduisant Félix Blumenfeld. Vladimir a 13 ans en 17. C'est un adolescent plus rebelle que jamais, blessé dans son orgueil parce que son professeur ne reconnaît pas sa virtuosité comme une qualité première. C'est un ado en quête d'admiration. Les étoiles s'alignent. Il apprend que Tarnovsky, son professeur attitré, serait mort du typhus en Crimée. C'est faux, il n'est que malade et reviendra, mais en son absence. Volodia a trouvé son nouveau maître à penser la musique, Félix Blumenfeld. Évidemment, Vladimir ne voudra jamais revenir sous la coupe d'un Tarnovsky qui exigeait qu'il s'exerce comme n'importe lequel de ses étudiants. Pire, des années plus tard, quand le vieux professeur, ruiné, vivra lui aussi aux USA, la star Vladimir Horowitz ne voudra pas qu'il l'importune et refusera qu'il se serve de son nom pour gagner en notoriété. Thank you. Revenons à Blumenfeld. Ce musicien a mené la belle vie, a une sacrée prestance. Élégance raffinée, moustache en guidon de vélo et cravate de soie. C'est un séducteur, quoique sur le déclin. Atteint de syphilis, tout son côté droit est paralysé. Et il doit maintenant se consacrer à l'enseignement après une carrière bien remplie. Il a étudié la composition avec Rimsky-Korsakov, a été le chef d'orchestre du Mariinsky et c'est là qu'il a dirigé la première représentation en Russie du Tristan de Wagner, puis celle de Boris Godunov à Paris. Bref, c'est un musicien prestigieux. Il compose aussi. Il a d'ailleurs écrit pour la main gauche. Il est encore l'auteur d'une symphonie. Mais surtout, il a été un des plus proches du père de tous les pianistes, Anton Rubinstein, que nous avons déjà évoqué plus tôt.
Félix était compositeur, chef d'orchestre, et pianiste et professeur de piano aussi. Et c'était un ami d'Anton Rubinstein. Il passait des heures, des jours et des semaines à l'écouter jouer. Anton Rubinstein est mon grand-père d'une certaine façon. Son secret le plus important pour les pianistes, pour jouer du piano, c'est le jeu de pédales. Ça vient de là. Je me souviens que lorsque j'ai joué un concert, Joseph Hoffman, qui avait été son élève, m'a dit « Mon professeur serait très heureux de votre jeu de pédale ». Je me souviens de ça comme d'un compliment.
La paralysie n'a pas rendu Blumenfeld amer. Au contraire, l'homme est affable. Un professeur de rêve pour Volodia. Techniquement tout d'abord. Pour commencer, Blumenfeld n'est pas un acharné du travail digital. 4 heures par jour devraient suffire. Premier bon point. Deuxième, il aime les morceaux de bravoure et enseigne à Vladimir une technique extraordinaire et rarissime et qui restera la marque de Vladimir Horowitz. Les doigts à plat. Des doigts à plat qui permettent plus de rapidité et plus de son.
Vous savez, c'est comme un boxeur. S'il vous boxe de loin, il perd de sa puissance. Un bon boxeur boxe court, des coups brefs. S'il ne fait pas ça, il perd son pouvoir. Si vous levez les mains et que vous les abaissez d'un coup, là vous perdez de la puissance et le son est désagréable. Mais quand vous faites un geste court, c'est de là que vient la puissance et le son agréable, et il est plein. Vous entendez chaque corde, chaque note, également, mais jamais rude.
Thank you. Stylistiquement ensuite, Blumenfeld a aidé le futur Horowitz à déployer sa palette sonore en l'encourageant dans ses pérégrinations vers l'opéra romantique, chez Wagner ou Strauss, et pas seulement l'opéra. Lui et moi, nous jouions tout le temps des réductions de symphonies, Haydn et Mozart, aussi bien que Bruckner, Mahler ou Brahms et Tchaïkovski. Il me guidait à la façon dont un chef d'orchestre guide ses musiciens. L'idée d'imiter le son des instruments au piano revenait souvent chez Anton Rubinstein, et c'est aussi ce que faisait mon professeur. Comment croyez-vous que ce serait fait par un violoncelle, un violon ou un hautbois ? Demandait-il en ajoutant, n'essayez pas d'imiter les instruments eux-mêmes, mais tâchez de penser à leur palette. Quel que fût l'effet qu'il cherchait, c'était à moi-même que je devais de trouver le moyen d'y arriver. Intellectuellement encore, Blumenfeld a compris que le talent de Volodia tient à son besoin de se démarquer des autres. Quand j'étais jeune, on critiquait toujours ce que ma façon de jouer avait de peu orthodoxe, surtout dans Chopin. Pourquoi ? Parce que je trouvais que la vieille tradition de la fin de l'ère victorienne, cette façon maniériste, était une exagération en soi, comme les meubles et la littérature de cette époque d'ailleurs, et que je pensais que Chopin, lui, devait jouer sa musique tout autrement que ses disciples. Blumenfeld l'encourage à s'approprier Chopin, de même Szymanowski et bien évidemment Liszt. Un professeur à l'époque est bien plus qu'un enseignant, c'est un mentor et même un membre de la famille. Ainsi, Blumenfeld va animer le salon de musique de la famille Gorowitz. Il y constitue un cercle de musiciens d'une belle envergure intellectuelle et professionnelle qui ouvre à l'adolescent des horizons inimaginables, car Felix Blumenfeld est le cousin de Karol Szymanowski et l'oncle de Heinrich Neuhaus. Or, ce neveu, le jeune Neuhaus, vient justement d'arriver à Kiev lui aussi. Il a 15 ans de plus que Vladimir et va devenir un immense pianiste, ainsi que le professeur de Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Radouloupou, et on l'entend ici dans un cours. Des années plus tard, quand on demande à Vladimir Horowitz quel pianiste l'a le plus influencé, il répond
Neuhaus, Heinrich Neuhaus.
Nous pouvons imaginer ces soirées familiales et amicales présidées par Blumenfeld. Volodia est en admiration. Blumenfeld est un condensé de ce qu'il voudrait devenir, un musicien dont le piano n'est qu'une activité parmi d'autres. Leurs sujets de conversation préférés doivent souvent tourner autour du jeune rebelle qui, en bon adolescent provocateur, clame que Beethoven le laisse froid. Neuhaus, sans doute amusé, le met au défi en encourageant la nouvelle lubie de Vladimir, devenir compositeur. Un nouveau Liszt ou Rachmaninov. Il faut dire que son aîné lui a fait miroiter l'Eldorado musical que peut être l'Europe. Alors, le jeune homme, pourtant désinvolte en classe d'harmonie et de contrepoint, accumule des esquisses dans ses tiroirs. Il n'en est tout de même pas encore aux transcriptions. Quand une journaliste lui demande s'il a voulu être compositeur, il répond
« Non, je n'ai pas souhaité, j'ai voulu. »
Vous l'avez fait ?
Et maintenant, je suis un compositeur frustré.
Quoi, frustré ?
Un compositeur frustré parce que j'ai raté le bus. J'ai commencé à jouer au piano et je n'avais plus le temps d'étudier.
Et dans une autre interview ?
Vous savez, d'une certaine manière, je suis un compositeur frustré. Parce que j'ai composé beaucoup de choses jusqu'à ce que j'ai 21 ou 22 ans, et après ça, j'ai arrêté, parce que je n'avais pas assez étudié et tout ça. Mais je pense que j'avais du talent pour la composition. Tous me l'ont dit, Rachmaninov et Prokofiev, tous ces gens m'ont dit que j'aurais dû composer. C'est pour ça que j'ai tant de facilité à faire des transcriptions de tellement de pièces. J'ai écrit pour le chant, pour violon, violoncelle, et pour le piano, je ne sais plus, je ne me souviens plus des titres maintenant. Jamais publié, jamais joué, tout est oublié.
Il n'en démordra jamais d'ailleurs.
Vous savez, quand j'ai commencé, je voulais être compositeur, plutôt qu'interprète. Et puis nous avons eu une petite révolution.
Et oui, la trêve s'achève. Fin 1918, début 1919, l'armée rouge envahit l'Ukraine, région bien utile à l'Empire soviétique, puisqu'on l'appelle le grenier à grain russe. Hiver 19, Vladimir rentre du conservatoire, une bombe tombe à quelques mètres de lui. À Kiev, chacun survit aux privations. La firme électrique de Siméon, le père de Vladimir, est réquisitionnée. Les Gorovits, je vous rappelle que c'est leur vrai nom, sont condamnés à quitter leur appartement bourgeois pour un petit logement dans un quartier modeste. Siméon fait la queue avec une carte de rationnement pour du sucre, du thé. Sofia, complètement terrorisée, reste cloîtrée chez elle. Plus rien ne marche dans la ville. Les transports, l'industrie, le ravitaillement. l'ancien appartement des Gorovits, le paradis de l'enfance de Volodia, cela ne s'invente pas, a été vidé pour devenir le siège du parti.
Il a tout perdu. Il a tout perdu en 1917, avec la révolution. Absolument tout, en 24 heures. Je n'exagère pas, tout. On ne comprend pas ça, mais la révolution a secoué le monde entier. Et autour de nous, tout s'est écroulé à partir de ce jour-là.
Ailleurs, il précise, je les ai vus, vus de mes yeux, jeter notre piano par la fenêtre. La devise des communistes était « voler ce qui a été volé ». Alors il prenait tout, tous les vêtements dans les armoires, les livres, les partitions, les meubles, tout. Il y a eu des centaines de gens tués et les rues étaient jonchées de balles et couvertes de sang. J'aurais pu être tué moi-même. Après 9h du soir, le couvre-feu nous interdisait de marcher dehors. Parfois, je rentrais à la maison avec des amis, on nous arrêtait pour nous interroger. Si Vladimir Horowitz aura l'élégance de dire en somme « Je suis un produit de la Révolution, non le produit d'une privation personnelle, mais d'une privation, disons, générale », il me semble qu'il est aussi le produit de la terreur. Les nerfs à vif de Vladimir Horowitz ont probablement pris racine dans ces années d'épouvante. Seul baume contre le désastre, il découvre le troisième concerto de Rachmaninov, l'apogée du romantisme russe, dernière œuvre que Volodia travaille avec Blumenfeld.
Thank you.
Il a 16 ans. Ses parents, qui ont toujours affirmé qu'il n'aurait pas à jouer en public tant qu'il ne se sentirait pas prêt, se résignent à demander à leur fils de finir son diplôme au conservatoire au plus vite. Siméon, au chômage, n'a plus de quoi payer le conservatoire, pas plus qu'il ne peut nourrir sa famille. Volodia pleure d'indignation, mais...
Je viens d'une famille aisée, mon père était un important ingénieur, et je sais qu'il a tout perdu. Vous voyez, ce genre de choses. Et là, j'ai commencé à jouer du piano, à commencer à donner des concerts. Et dans la mesure où ma famille m'avait donné une éducation, il fallait que je leur rende en retour. Et j'ai joué jusqu'à aujourd'hui.
Le concours lui-même est une extraordinaire aventure, tant Vladimir prend des risques. Il y a 3 épreuves, une œuvre de musique de chambre et un récital, et un concerto. Évidemment, il choisit le 3e de Rachmaninov.
Oh oui, j'ai eu des petits succès. Je me souviens qu'à la fin des éliminatoires, tous les professeurs et le public se sont levés et m'ont ovationné. J'avais joué le Don Juan de Liszt, le 101 de Beethoven, la fantaisie de Chopin. Je jouais déjà tout.
Une ovation pour un élève, c'est effectivement du jamais vu. Vladimir n'avait eu jusqu'à présent pour tout public que quelques élèves, ses amis et sa famille, tous bienveillants, évidemment. Or, cette fois, il a l'irréfutable preuve de son pouvoir de séduction dans une salle de concert. Fort de ce succès, il donne immédiatement un concert à Kiev le 30 mai 1920. Le son de son piano couvre à peine les tirs dans la rue. Nous entrons dans une partie de la vie de Vladimir Horowitz qui va durer 5 années et qui vont faire de lui un pianiste à succès russe, soit, mais surtout soviétique. Les débuts sont chaotiques. Son oncle, Alexandre, remue ciel et terre pour lui trouver des concerts. À Kharkov, Vladimir réalise que ses auditeurs ne sont venus que pour avoir chaud quelques heures. De cet affront à son talent, il fait alors un défi et se met à jouer follement vite. Et finit par motiver son auditoire. Odessa, Moscou, le jeune Volodia réussit à remplir enfin les salles et les placards de la cuisine familiale. À ce moment, le gouvernement cherche à coordonner les activités culturelles et forme les brigades artistiques mobiles pour faire découvrir la musique dans les usines, les fermes collectives, les petites salles villageoises. Le responsable de cette initiative à Kiev est un certain Pavel Kogan. Il devient l'agent du jeune Horowitz. Et Vladimir, surjouant ses acrobaties techniques, teste sa nouvelle devise « le succès avant tout ».
Thank you.
Il reconnaît. Quand j'étais jeune, je voulais épater le bourgeois. J'avais une facilité incroyable. Dieu était très généreux de me donner cette technique pour laquelle je n'avais pas besoin de tellement travailler. J'avais le pouvoir de faire lancer leur chapeau en l'air aux gens. C'était mon but. Je voulais qu'ils me reconnaissent et avoir immédiatement du succès. Alors, je choisissais la facilité.
Sous les doigts d'Horowitz. Emmanuel Franc, France Musique.
Ne nous y trompons pas. Si Vladimir se réjouit de son succès, Pavel Kogan voit aussi son poulain sombrer dans des abîmes d'angoisse avant un concert, une faille qui se révélera un gouffre plus tard. Il témoigne. Avant chaque récital, son teint devenait encore plus livide que d'habitude. Il ne pouvait regarder personne, il ne pouvait pas dire un mot et il arpentait sa loge à pas lourds avec découragement comme un lion en cage. Mais dès qu'il s'avançait sur l'estrade, on assistait à une transformation miraculeuse. Souvent, je me suis demandé si je connaissais vraiment ce long jeune homme poétique, en queue de pie, qui s'asseyait au piano si simplement et commençait par épousseter soigneusement son clavier de son mouchoir blanc avant de se mettre à jouer. En écoutant Horowitz, je pouvais voir à l'œuvre ce démon secret que Liszt et Paganini avaient dû avoir en eux. Et oui, il y a un jeune homme anxieux à l'origine des caprices et sautes d'humeur du Vladimir Horowitz adulte et célèbre dans le monde entier. Et pourtant, le musicien, lors de ses concerts à la chaîne et dans des lieux misérables, fait preuve de compassion. Il dit « Je ressentais l'atmosphère de la Russie. Je ressentais le pessimisme du peuple russe, avec ses privations morales et physiques, comme dans une société féodale. Je me suis identifié à elle, et j'ai essayé de les traduire, de les faire passer dans mon jeu. » À partir de là, c'est grâce à Nathan Milstein que nous pouvons suivre Vladimir. Ce grand ami à vie livre des souvenirs précis et nous offre quelques séquences d'un film dont le titre serait « Volodia au pays des soviets ». Au cours de l'hiver 21, je donnais deux récitals à Kiev. À l'issue du premier concert, un invité inattendu se rendit dans les coulisses. C'était Vladimir Horowitz. Il avait 17 ans. Je l'ai immédiatement appelé par son surnom Volodia. Je me souviens qu'il était si beau, mince et élégant comme un lévrier. Sa sœur, Genia, l'accompagnait et elle nous a invités à prendre le thé chez eux. Chez les Horowitz, il y avait beaucoup d'autres musiciens. Ils goûtent, puis les jeunes s'enferment dans la chambre de Genia pour jouer. Elle jouait bien, mais sagement, et du Chopin, tandis que Volodia s'est lancé dans la scène du sabre de Siegfried de Wagner, des extraits du Coq d'Or et de Tristan. J'étais stupéfait. C'était un ouragan musical. Je me suis mise à jouer et il y a eu une réaction chimique immédiate entre Volodia et moi. Ce soir-là, Nathan Milstein oublie le couvre-feu et dort chez Vladimir. Et voilà comment, venu prendre le thé, il va vivre pendant 3 ans chez les Horowitz, malgré l'exiguïté de leur appartement. Une anecdote intime nous en dit long sur ce qu'endurent les parents de Vladimir pendant ces années-là. Un jour, Nathan et Volodia décident de rendre le sourire à Sofia, qui reste cloîtrée dans sa chambre, en l'emmenant au cinéma. Madame Horowitz commence à se préparer dès le matin. Elle enfile un ensemble de soie noire à la mode 1900, se tartine un abondant maquillage à dominante jaune et verte et finit par se coiffer d'un incroyable chapeau violet. Dehors, le soleil était chaud. Tout le monde nous regardait. Nous décidâmes de faire signe à l'autobus pour monter car nous n'aurions jamais pu aller jusqu'à l'arrêt suivant. Le chauffeur arrêta son bus à la vue de Madame Horowitz et nous l'y poussâmes à force d'incroyables efforts. Dans l'autobus, les ouvriers la regardaient avec stupéfaction. Modeste et polie, ils lui proposèrent immédiatement un siège. Elle les toisa, ajusta son face à main pour les regarder des pieds à la tête, faisant peser son regard sur leurs souliers éculés, puis dit d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende « Et c'est ça qui nous gouverne maintenant ?»
Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны.
Ce fut la dernière sortie de Sofia. Mais des jours après l'incident, chacun a redouté que des voyageurs ne l'aient dénoncé pour ses propos contre-révolutionnaires. Heureusement, il n'en a rien été. L'amitié Milstein-Horowitz et les 1000 souvenirs qui s'y attachent s'entendent peut-être dans leur duo musical. Je vous en propose une petite bouffée, mais promis, nous allons prendre le temps d'écouter le duo plus longuement un peu plus tard. beaucoup voyager ensemble. Pavel Gauguin, également manager du Milstein, les programme ensemble. Ils enchaînent ainsi les trains, les hôtels inconfortables, les scènes sur des tréteaux, les pianos qui n'en ont que le nom, les salles glacées et un public bruyant. Et petit à petit, alors qu'ils ne sont encore que des provinciaux, leur notoriété grandit jusqu'à ce qu'un article dithyrambique les décrive comme « les enfants de la révolution soviétique ». À partir de là, les concerts s'enchaînent dans toute la Russie. Milstein précise qu'il fallait 11 jours de train pour aller de Kiev à Rostov. Les trains s'arrêtaient toutes les demi-heures, ou alors il n'y avait plus de charbon, ou il fallait réparer la voie. Mais ils avaient la vie devant eux. On leur demande de venir jouer à des meetings communistes, on les paye parfois en chocolat, luxe absolu. Milstein se souvient qu'il ne jouait évidemment pas en habit, trop bourgeois, il se présentait en vareuse de paysan. Les deux amis se fixent ensuite à Moscou, partageant une minuscule chambre. Ils donnent ensemble un concert dont nous n'avons évidemment aucune trace. Il s'agit du concerto numéro 1 de Chimanovski. Vladimir doit jouer l'orchestre au piano pour accompagner Milstein. Sauf qu'il se met à improviser des parties de son accompagnement, laissant le violoniste sur le bord de la partition. Milstein, mi-fille, mi-raisin, dit « Il a fallu que je m'adapte à Horowitz qui m'accompagnait. » Il ne supportait pas de rester dans l'ombre. Et puis en 1922, Vladimir connaît un ineffable plaisir dont il va se souvenir longtemps. Il accompagne la grande Nina Koschets. Ils interprètent les romances de Rachmaninov que Nina avait déjà données avec le compositeur lui-même. Vladimir fait un pas de plus vers son dieu. Siméon a enfin trouvé un job qui n'a certes rien à voir avec ses compétences. Il est gratte-papier dans l'administration, mais cela lui permet d'aller à Moscou. C'est lui qui a ainsi l'idée d'organiser un concert avec le Persifarms, un orchestre tout à fait particulier et dans le vent de la Révolution. Considérant qu'un chef d'orchestre est un rôle bourgeois et autoritaire, les musiciens s'en passent et se disposent en rond pour tenir le dialogue entre eux. Bien évidemment, ils doivent répéter bien plus que n'importe quel orchestre. Mais le résultat est là. Cet orchestre a attiré beaucoup de grands noms occidentaux. Darius Milhaud, Hindemith, Alfred Cortot, Edwin Fischer, Wilhelm Backhaus, Egon Petri. Vladimir les a tous entendus et dira: il n'y avait en fait que peu de très bons pianistes parmi eux. Rien dans leur interprétation ne m'a influencé, si ce n'est le choix de leur répertoire. En 23, Nathan et Vladimir donnent un concert caritatif pour enflouer le conservatoire de Leningrad, dirigé par Glazounov. Horowitz interprète le troisième de Rachmaninov. Et c'est un triomphe. Il devient à 21 ans le grand interprète du compositeur pour les Russes. Dans le public, il y a Arthur Schnabel, qui a raconté leur rencontre. J'ai été très impressionné. Horowitz voulait prendre une leçon avec moi, mais je décidais qu'il n'en avait pas besoin. Quand je lui ai demandé s'il composait, il m'a répondu très timidement « oui ». Il avait déjà un succès énorme. Il était assez enfant gâté, mais il était également très fatigué. Le héros du jour, c'était vraiment lui. Mais j'ai pensé que physiquement et moralement, il fallait absolument qu'il quitte la Russie. Il y a de bonnes raisons pour que Schnabel ait trouvé Volodya fatigué. Kogan, qui voit grandir la notoriété du jeune pianiste, lui en impose beaucoup. À partir de 22, il est une star en URSS. Il a un fan club de jeunes filles enamourées. C'est à ce moment qu'on lui donne le titre de pianiste foudroyant. Il faut dire que Volodya a sérieusement agrandi son répertoire parce qu'il s'est mis en tête d'imiter son modèle quand il était enfant, Joseph Hoffmann, qui proposait lui 21 programmes différents en une saison. Vladimir réunit une centaine d'œuvres, constituant 11 programmes, avec lesquels il offre un véritable marathon à Saint-Pétersbourg, à Leningrad.
Quand je suis venu à Leningrad en 1923, on le voit encore maintenant dans le livre d'or, j'ai donné 23 récitals en une saison. 23, avec 11 programmes. 11 programmes parce que je ne voulais pas me répéter. 11 programmes et 23 récitals en une saison. Tout de même.
За кулисами, а за вами словами звенят. Парикмахер, суфлер и актер с актрисами потихоньку ругали меня.
1923. Vladimir Horowitz et Nathan Milstein sont à Moscou quand Lénine décide de la NEP, le système d'économie mixte privée-publique. À partir de là, dit Milstein, les denrées alimentaires firent une apparition miraculeuse et abondante à Moscou. Horowitz et moi avions de l'argent, nous pouvions donc nous offrir des pâtisseries délicieuses et des monceaux de crème fouettée dans les cafés à la mode. Nous étions entourés de jolies femmes, dont Milstein note au passage que Volodya n'en a rien à faire, et d'hommes riches et vêtus de fabuleuses fourrures. La vie était belle. Il rencontre les intellectuels les plus notoires, comme Léonid Pasternak, le peintre, et son fils, le jeune poète Boris. Constantin Stanislavski, la soprano star Antonia Nezdanova, un jeune pianiste de 17 ans, Dimitri Shostakovich. Mais la passion qu'ils partagent tous les deux, avant tout, c'est le théâtre. Et ils y vont autant que possible.
Ты знаешь, когда я так сказал, уж я от слов не отступлю.
Недельно ты, сестра, вмешалась, во что не разумеешь.
Et Vladimir est aussi maintenant un artiste auquel on pardonne toutes les excentricités. En cette période post-révolutionnaire, Volodia cultive son apparence. Un monocle, alors qu'il n'a aucun problème de vue, des bagues, une fourrure extravagante. Il est toujours pâle, une grande mèche sur le côté, des escarpins vernis. Il s'est fabriqué un personnage de dandy romantique. Vanda, sa future femme, en observant une photo de l'époque, dira qu'il était évidemment le sosie de Chopin peint par Delacroix. Qu'il se maquille et ait probablement une liaison avec un acteur, voire qu'il faille aller le rechercher après une virée dans les bars à matelots, rien de tout cela ne choque dans les milieux bohèmes. Ces années-là, une certaine licence est permise, presque une liberté sexuelle. La promotion de tous les arts russes ont encouragé les communautés, y compris gays, à se réunir dans des cafés et à s'exposer. Diaghilev, Nijinsky, Tsetaïeva, Essénine, Eisenstein. Cette liberté ne va pourtant pas durer. Dès les années 30, l'homosexualité sera passible de déportation en Sibérie. Il y a une ombre menaçante à ce joyeux tableau. Volodia cherche surtout à fuir le malheur. Sa situation familiale est d'une tristesse insondable. Sa mère a sombré dans une neurasthénie dont elle ne sortira jamais. Son père, le magnifique Siméon, est devenu un larbin grisâtre du régime. Son frère aîné, Jacob, a été tué au début de la Révolution. Mais le chagrin qui torture la famille, c'est la souffrance de Georges. Georges, ce frère si fragile depuis l'enfance, a complètement perdu pied. Alcoolique, clochardisé, il a été hospitalisé en psychiatrie. Vladimir va le voir chaque jour, puis on l'empêche d'entrer. Il y retourne quand même, jusqu'à ce que le médecin se décide à lui annoncer qu'il est inutile de revenir puisque son frère s'est pendu la semaine précédente. On sait que Vladimir Horowitz a été choyé. Mais il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué ce frère adoré. Ne pas perdre de vue que Volodia a assisté à son effondrement mental, comme si, caché derrière le miroir, Georges lui renvoyait une image de détresse abyssale pour le restant de ses jours. Milstein, très proche de Volodia à ce moment, insistera toujours. Il faut comprendre que son art est indissociable de sa nature névrosée et hyper nerveuse. Thank you.
sous les doigts d'Horowitz. Emmanuel Franc, France Musique.
Bien plus tard, un journaliste demande à Volodia comment se fit-il que les Russes l'aient laissé partir.
You know why?
Vous savez pourquoi?
Sometimes people do mistakes.
Parce que parfois, les gens font des erreurs.
Comme pianiste, qu'est-ce que Vladimir peut désirer de plus? Sa notoriété est au zénith en URSS. Quoi d'autre? Eh bien, une reconnaissance hors des frontières russes. Or, depuis 23, l'embellie économique a permis à un impresario nommé Alexandre Merovitch de fonder une agence privée. Il veut emmener l'opéra et le ballet russe en Europe. Il cherche à enrôler Chaliapine et Anna Pavlova en vain, mais a plus de succès avec les jeunes talents comme Horowitz et Milstein. L'idée de partir, Vladimir la caresse depuis l'adolescence. Mais avec Sacha Merovitch, elle pourrait bien prendre réalité. Alors lui qui adorait le luxe devient pingre parce qu'il économise sur ses cachets. Il change ses roubles au marché noir jusqu'à obtenir 5 000 $ cachés la nuit sous son oreiller et le jour dans ses chaussures. Merovitch s'assure un contrat à vie, oralement, avec le père de Volodia avant d'organiser le départ. Il négocie avec les autorités la nécessité pour Vladimir de continuer sa formation en Allemagne aux côtés d'Arthur Schnabel. Et comme l'idée de Trotsky était qu'il fallait montrer au reste du monde comment les soviétiques savaient produire des génies, que ce n'était pas seulement un peuple matérialiste, Merovitch obtient un visa pour son protégé. Enfin, après des adieux probablement déchirants avec sa famille, personne ne sait s'ils se reverront un jour, Vladimir prend le train avec son impresario. Les paysages russes défilent pour la dernière fois. Ils sont sans cesse contrôlés. Non, non, dit-il au douanier, il n'a pas d'argent sur lui.
Mon passeport était dans ma poche et mon argent dans mes chaussures.
Pourquoi dans vos chaussures?
Parce que passer de l'argent en douce était interdit. J'avais acheté des dollars et des livres au marché noir parce que j'ai payé les concerts que j'ai donnés à Hambourg et Berlin avec l'argent que j'avais gagné en Russie.
Mais il fallait sortir l'argent.
Oui, je l'ai mis dans mes chaussures parce que sinon, si je me faisais pincer, j'allais en prison. Ne dites ça à personne.
Quand vous avez passé le dernier soldat avec l'argent dans les chaussures, vous avez dû suer à grosses gouttes.
J'étais livide. Mais ils ont été très gentils avec moi. Et ils m'ont dit, n'oublie pas ta mère patrie et reviens de ces jours.
Un train, encore un train, et nous allons en prendre encore des trains, souvent avec Volodia désormais. Vous verrez. Berlin, ce sera la semaine prochaine, et puis Paris, et puis suite au prochain épisode. Avant de se quitter tout de même, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, écoutons en entier la sonate de Brahms qu'ont enregistré Nathan Milstein et Vladimir Horowitz en 1950. C'est le seul enregistrement dont on dispose de leur dialogue musical. Évidemment, en 1950, Vladimir est une star absolue, Milstein l'est moins, et le premier a peut-être voulu faire plaisir au deuxième. Je ne me risquerai pas à commenter leur interprétation de la sonate de Brahms, mais peut-être puis-je juste vous rappeler de penser à leur belle amitié de jeunesse, à leur personnalité si différente dans ce moment musical enregistré donc 30 ans après la rencontre des deux musiciens en pleine révolution russe.
Thank you.
La sonate pour violon et piano numéro 3 en ré mineur opus 108 de Brahms, enregistrée par Nathan Milstein et Vladimir Horowitz, ceux qu'on avait appelés les enfants de la Révolution, s'étaient retrouvés en 1950 pour cet unique enregistrement ensemble. C'était sous les doigts d'Horowitz, une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amadou. À la technique aujourd'hui, il y avait Valérie Lavalard. Le troisième épisode, ce sera samedi prochain à 11h. Passez une bonne semaine, et si c'était une semaine horowitzienne? Vous trouverez toutes les références musicales de l'émission sur francemusique.fr. À samedi prochain.